Vous écoutez France Culture.
Un été avec Philippe Solers, proposé par Isabelle Huel et Dominique Rousset. Première rencontre, un roman familial. 10 heures en compagnie de Philippe Solers chaque samedi, chaque dimanche, pour vous donner à entendre les voix, les textes, la musique, ses goûts, ses choix. Pour l'écouter lire, citer, commenter, ironiser, défendre et s'enthousiasmer souvent. Une vie de rencontres, des noms et des lieux, le Cher, l'indispensable 18e siècle, les femmes toujours présentes, la jouissance de la découverte, un beau texte, un beau tableau, une cantatrice, un interprète génial, Venise, la Chine, le spectacle du monde d'aujourd'hui. Quant à nous, il nous est vite apparu qu'il ne fallait pas interrompre cette course à la fois tranquille et frénétique, mais nous glisser sans faire trop de bruit dans son minuscule bureau de la rue Sébastien-Bottin, chez Gallimard, chaque semaine, 14h30 précise, l'emploi du temps de Philippe Solers est quasi immuable. Donc ni voyage, ni entretien avec des tiers, ni même balade dans Paris qu'il connaît si bien. Tout se lit et se dit ici, au milieu des livres, tout près de quelques objets et photos intimes. Un été avec Philippe Solers, ou Philippe Solers par lui-même, à l'origine et pour toujours, l'enfance bordelaise.
Quelqu'un qui dira « je » plus tard est entré dans le monde humain le samedi 28 novembre 1936 à midi dans les faubourgs immédiats de Bordeaux sur la route d'Espagne. Je n'ai aucune raison d'en douter. En tout cas, l'état civil, etc. est formel. Donc là, je donne mon nom d'état civil qui est Joyau. Philippe Gérard Joyau, fils d'Octave Joyau, 40 ans, et de Marcel Joyau, né Molinier, 30 ans, troisième enfant, donc après deux filles, Clotilde et Anne-Marie, dites Annie, 5 ans et 3 ans.
Une chance d'arriver après deux filles.
Attendez. Baptisé catholique à l'église du coin, signe astrologique occidental Sagittaire, ascendant Verseau, signe chinois rat de feu. Là, je dis bonne chance. Il y a des naissances au pluriel, il n'y en a pas qu'une. Et je mets l'accent tout de suite sur la question du nom, plutôt que sur la naissance du corps. On va y venir après, mais je fais exprès de donner d'abord quelques renseignements sur les noms. La question pour un écrivain me semble être la suivante. Est-ce qu'il connaît, oui ou non, à fond, son roman familial ? Jusqu'où peut-il remonter ? Comment il situe cette question-là dans le temps, c'est-à-dire dans l'histoire ? Et s'il est, oui ou non, passé à travers ce que génère comme névrose, ou comme maladie, ou comme drame, ce qu'on appelle la question de la famille. Il y a une chose qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est de voir à quel point, bien que nous soyons au début du XXIe siècle, la plupart des écrivains me semblent très très en retard par rapport à l'époque où nous vivons, inhibés qu'ils sont, freinés par une représentation toujours très 19e-iste, très classique, de leur question d'origine. La plupart n'arrivent pas, ou alors en très mauvais état, à notre époque. C'est étrange et je me demande pourquoi, mais c'est un problème que je crois français en fait. C'est la raison pour laquelle je vais essayer d'expliquer la singularité qui me caractérise. Roman familial, dis-je à propos de mon cas, plus qu'étrange. Deux frères, ayant épousé deux sœurs, vivent dans deux maisons jointes et symétriques, chaque pièce de l'une étant l'exacte réplique de celle de l'autre. Inutile de vous dire que ce dispositif est tout à fait favorable pour quelqu'un d'un peu rêveur ou d'imaginatif à des scènes considérables d'intrusion d'un espace dans l'autre, être dedans, dehors, de l'autre côté, etc. Deux frères, deux sœurs, deux maisons symétriques. D'un côté, il y a donc des personnages qui s'appellent Maurice et Laure et un garçon qui est mon parrain, qui a 10 ans de plus que moi. Et il y a donc d'emblée, ce parrain s'appelle Pierre Joyot. Et moi, je m'appelle Philippe Joyot. Cela fait 2PJ comme initial. Et je mettrai longtemps à imposer le H pour écrire l'abréviation de mon prénom. PH, Philippe Joyot, et pas P. Joyot. Aujourd'hui encore, où je m'appelle le plus souvent Solers, l'inscription PS dans les signatures ou les interviews me dérange, d'autant plus que cela fait post-scriptum ou parti socialiste. PH, vous dis-je, comme le phi grec, c'est-à-dire, bien entendu, phallus. PJ n'était pas non plus possible, puisque cela donne police judiciaire. J'insiste, PHJ ou PHS. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nom ? Une famille vous donne, une société reconnaît, et le nom que vous allez ensuite vous donner à vous-même. C'est la question des pseudonymes qui est essentielle dans la littérature française, puisque vous avez un nombre considérable d'écrivains qui ont choisi des pseudonymes. Et en effet, il vaut mieux s'appeler Voltaire Carouet, Molière que Poquelin.
Stendhal que Bell.
Stendhal que Bell, il y a fait très attention. Duras que Donadieu, Yourcenar que Crayancourt, et surtout, par exemple, Gracq que Poirier. Parce que Julien Poirier, ça n'est pas la même chose. La question du nom, donc, elle est très, très bizarre.
Mais Solaire, c'est beaucoup mieux que Joyot.
Alors, nous allons y venir, voilà, parce qu'il ne faut pas aller trop vite. Ce nom de Joyot a d'ailleurs été à la fois une merveille personnelle et une plaie sociale, dans la mesure où il m'a attiré, surtout à l'époque, nous sommes donc en 1936, et des poussières, une agressivité et des colibés en tout genre. Jean Paulhan, qui a lu mes premiers essais, transmis par Francis Ponge, trouvait que c'était un nom de grand écrivain, ironie sans doute, comme de Malraux à Joyot. J'ai donc passé mon enfance à l'école à entendre déformer ce joyau en noyau ou boyau, sans parler des apostrophes lassantes des professeurs petits bourgeois. Ce joyau n'est pas une perle, ou bien dites-moi joyau, vous ne brillez pas de tous vos feux aujourd'hui. J'ai remarqué autre trait d'époque, que les noms systématiquement moqués étaient en général aristocratiques ou juifs. J'étais suspect comme eux, je le reste. Pourquoi est-ce que j'ai pris un pseudonyme ? Parce que, lorsque j'ai publié mon premier livre, Une curieuse solitude, j'étais encore mineur. Hein. C'était la majorité était à 21 ans, en ce temps-là. Et ma famille trouvait ce roman scandaleux. Donc j'ai été obligé de changer de nom, et heureusement d'ailleurs. Donc le pseudo Solaire, c'est un personnage imaginaire que je m'étais créé vers 15 ou 16 ans, un peu sur le modèle du Monsieur Tess de Valéry. Vous vous rappelez le début du Monsieur Test, la bêtise n'est pas mon fort. Voilà. Ce personnage était secret, voué à la pensée et à la méditation, très influencé par Stendhal, mais venu tout droit de l'Odyssée, comme son nom traduit en latin le laisse supposer. Un type aux mille tours et détours plein de subtilité et de ruse, et qui veut avant tout vivre sa vie libre et se retrouver chez lui. Donc Ulysse, hein, de l'Odyssée. J'ai été plutôt très bon en latin. Le dictionnaire m'a donné mon nom d'écrivain. C'est un beau latin. Solaire, de solus avec deux L et ars, qui signifie tout à fait industrieux, habile, adroit et ingénieux. Ce solus avec deux L, ne pas confondre avec solus avec un seul L qui veut dire seul, est le même que le holos grec, hein, holocauste, hologramme, tout entier, c'est-à-dire tout entier sans reste. et que totus entier et intact. On entend aussi salvus, hein, guéri ou sauvé. Attention, Solers avec deux L. De même que joyau écrit sans X, comme pour éviter le pluriel me blesse. De même, l'absence épisodique de ce deuxième L me souffle d'indignation. Ça arrive souvent. Et j'encaisse mal. Je passe sur les très nombreux articles intitulés « Le système Solers » ou « Rien de nouveau sous le Solers », etc. Le bon docteur Freud, si mal jugé aujourd'hui et que j'aime de plus en plus en fonction même des attaques dont il est l'objet, le bon docteur Freud nous a expliqué ce que cette attaque au nom signifie de façon gentiment meurtrière. Qui est-on d'abord et enfin un nom ? Se donner le sien n'est pas une mince affaire, le sien seul.
Mais encore une fois, je trouve que s'appeler Joyau, c'est... Alors, pas, ça n'est pas aussi ennuyeux que de s'appeler Quarez.
Mon cas est donc à l'opposé.
Ah, d'accord, on y vient.
Moi, c'est à l'opposé, c'est pour cacher. Joyau, c'est un nom qu'il faut cacher. La preuve, c'est, sinon, c'est Colibé. Voilà. Sarcasme, etc. Le fait d'avoir deux noms, hein, Jekyll, Hyde, et de pouvoir en jouer est une chance. On n'est jamais assez double ou triple pour échapper aux autres, à la famille, à l'école, à la contrainte, au contrôle social. Voilà. Deux frères épousant deux sœurs, deux maisons symétriques, une bizarrerie d'origine, beaucoup d'imagination, et voilà quelque chose s'ouvre, je m'appelle Joyau, dit Solers. De toute façon, masquer un nom trop brillant par un pseudo neutre, mais qui ne l'est pas pour les amateurs, ne me paraît pas indigne de ce héros préféré, Ulysse, lequel, on s'en souvient, a su s'appeler personne au moment voulu. Ça, c'est la scène fameuse de l'Odyssée, avec, en effet, la question que pose le pauvre Cyclope. Le Cyclope, aujourd'hui, vous savez ce que c'est le Cyclope aujourd'hui ? C'est la caméra, c'est l'appareil photo. C'est la vidéo de surveillance, c'est la surveillance généralisée, c'est tout ce qui peut faire qu'en ce moment même, un satellite pourrait exactement observer ce que nous sommes en train de faire, à quoi il ne comprendrait rien, il faudrait le son quand même. Mais enfin, c'est ça le cyclope. Donc vous voyez, très lointainement dans la mythologie, on peut retrouver, transposer, comment échapper au cyclope. Il faudra donc faire durcir un pieu avec du feu, lui donner du vin afin de l'endormir, le désinformer en quelque sorte.
Aveugler la caméra.
Il faut désinformer la caméra. Il faut donc pas du tout croire qu'on s'en sort en se cachant ou en se terrant quelque part. On est surveillé partout. En revanche, on peut éventuellement abuser la caméra en se prêtant à la caméra. En prêtant son corps, son apparence physique à la caméra, et elle vous prend à ce moment-là pour quelqu'un d'autre, et pendant ce temps-là, comme on dit dans les films muets, des autres marchandises passent. Il faut crever l'œil de la surveillance, et au nom de personne.
Quels sont les souvenirs que vous faites émerger en premier ? C'est une enfance heureuse ? Ou la maladie a joué sa part d'ailleurs ? Vous avez été souvent malade.
Voilà, c'est donc les deux. J'en suis à me demander maintenant si je n'ai pas choisi bizarrement, enfin, ou mon corps, a choisi d'avoir des maladies assez dures, notamment des otites, des mastoïdites, en répétition, et puis l'asthme qui m'a tenaillé jusqu'à l'âge de 13 ou 14 ans, pour précisément rester encore plus à l'écart dans ce bonheur qui, quoique malade, m'apparaissait absolument irradiant. Une sorte de très forte sensation d'étrangeté. Donc je crois que de toute façon, qui a comme soutien permanent dans la vie, pour ça vaut pour tout le monde, son enfance est sauvée. Et alors que de plaintes, que d'enfance malheureuse, que d'enfance battue, misérable, etc., en effet, que d'enfance d'origine modeste, ça c'est très bien vu par la société, n'est-ce pas ? Alors ça produit des films, des histoires n'ont plus fini, n'est-ce pas ? Voilà. Évidemment, là, je ne suis pas là. Si vous voulez, en relisant les mots de Sartre, j'ai été très frappé de voir qu'il a... Il s'est senti abusé par cette enfance, vécu parmi un grand-père qui avait des livres, etc. Il y avait des livres chez lui, alors il s'est raconté. Et au fond, ça le coupait de la réalité. Chez moi, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il y avait très peu de livres, ou des livres dont personne ne se servait. Et le fait de savoir lire, de commencer à lire en profondeur un peu les livres qui étaient là, ça m'ouvrait le monde et la réalité. La réalité... pas tellement social, qu'il n'est pas la réalité, parce que la réalité sociale, il faut s'en méfier énormément, parce qu'elle est pleine de spectacles supposés. Mais enfin, c'est la nature elle-même. C'est les arbres, c'est les fleurs. C'est dans Discours parfait, vous avez par exemple tout un petit livre qui commence le livre, qui est sur les fleurs. Qu'est-ce que c'est que les fleurs ? Les gens s'offrent des fleurs, ils mettent des fleurs, ils ne les voient pas. Ils ne les sentent pas, ils ne les respirent pas, et pas plus que les mots. C'est très étrange d'arriver à la constatation suivante, d'autant plus aujourd'hui, où la capacité de lecture va petit à petit être éradiquée, où la mémoire elle-même deviendra de plus en plus titubante, parce qu'une bonne tyrannie veut des gens qui s'informent le moins possible dans la littérature, dans la poésie. Ça fait de bons esclaves, des résignés, si vous voulez. Il est étrange de voir que la plupart des personnes considèrent les fleurs comme quelque chose qui fait partie du décor. Mais la fleur elle-même, comment elle est, quel est son fonctionnement, une orchidée par exemple, vous lisez Proust et vous voyez ce que c'est ce qu'il a voulu mettre dans le Cattleya, par exemple, ou bien Genet, qu'est-ce que c'était pour lui que Notre-Dame des Fleurs, ou Rimbaud est un des plus spectaculaires là-dessus, sans parler de savoir pourquoi Baudelaire a appelé son recueil les fleurs du mal, quand même. Voilà. Donc, je voulais simplement insister sur cette histoire de jardin.
Sur la lecture, vous me permettez de vous lire ?
Oui.
Je suis assise sur un tapis rouge sombre, ma mère est à côté de moi et me demande, une fois de plus, de déchiffrer et d'articuler une ligne de livre pour enfants, le béaba, quoi, l'annonage. Il y a des lettres, des consonnes, des voyelles, la bouche, la respiration, la langue, les dents, la voix. Comment ça s'enchaîne, voilà le problème. Et puis, ça se produit, c'est le déclic, ça s'ouvre, ça se déroule. Je passe comme si je traversais un fleuve à pied sec. Me voici de l'autre côté du mur du son, sur la rive opposée, à l'air libre. Et j'entends ma mère dire ces mots magiques. Eh bien, tu sais lire.
Voilà une autre naissance. Celui qui sait lire ou qui sait qu'il sait lire, si vous continuez le passage, vous voyez que ça me jette dans une ivresse considérable.
Vous partez, vous courez comme un fou dans le grand pré aux chevaux, voilà. Vous entrez dans la forêt en n'arrêtant pas de répéter « je sais lire oui. ». Ivresse totale, partagée, il me semble, par les vignes, les pins, les chênes et les oiseaux furtifs.
Voilà. Il y a là quelque chose de magique. À partir de là, tout ce qui pouvait se situer dans une zone de lecture particulièrement aimantée, et les livres sont devenus pour moi, ils le restent, ils le sont encore. Ce que j'écris, j'essaye de les pousser vers ça, c'est de la magie. On peut se mettre dans cet état invraisemblable qui apporte vraiment alors des plaisirs, des satisfactions considérable. C'est-à-dire que tous les matins, par exemple, si j'ai réussi à faire 10 lignes ou 15 lignes de plus, ma journée est sauvée. Donc ce sont des considérations qui doivent paraître de plus en plus étranges, de plus en plus anormales, de plus en plus folles même, si on peut dire. Parce qu'en quoi le fait d'avoir écrit des lignes peut-il vous sauver l'existence ? C'est ridicule. On n'aime pas me dire que c'est ça, vraiment. C'est pas ça. Eh bien, si...
La direction du gouvernement de la France, sûr de l'affection de notre admirable armée,
connaît maintenant
avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre
de ses conditions, que les forces françaises de terre, de mer et de l'air serait entièrement démobilisé.
Les rainettes sont mûres. Le renard aime les raisins. Croissez, roseaux. Bruissez, feuillage. Je porterai l'églantine. Je n'entends plus ta voix. Je cherche des trèfles à quatre feuilles. L'acide rougit le tournesol.
J'avance un petit peu, effectivement, dans cette enfance. Oui, je vous disais, un souvenir très fort aussi, sonore, celui-là, c'est la radio et Radio Londres.
Absolument.
Pourquoi vous en souvenez autant, d'ailleurs ?
Eh bien, écoutez, parce que vous voyez où ça se situe dans le temps. D'abord, 1936, 39, 40, 41. Bon. Il y a, pour la France, ce que j'appelle trois... Placard dans les cadavres, pas cadavre dans les placards, placard dans les cadavres. Il y a d'abord, en effet, ce qui va venir, c'est-à-dire la guerre et l'occupation. Bordeaux est occupé par les Allemands. Avant, il y a la guerre d'Espagne qui fait venir des tas de réfugiés. J'ai été bercé dans des bras basques ou espagnols. Je suis assez bon en espagnol, je peux très bien me débrouiller. Par exemple, à New York, je comprends assez mal le Yankee, vous savez, c'est-à-dire... En revanche, l'espagnol, il y a beaucoup d'hispanophones. Les Français sont perdus à New York. Personne ne parle français, mais il y a beaucoup, beaucoup de latino-américains, de colombiens. On peut se débrouiller avec l'espagnol. Et alors, la guerre. Et alors, c'est-à-dire la radio. Pourquoi ? Parce que ma famille était très anglophile, ce qui n'est pas trouvable fréquemment dans les armoires ou les placards français. Anglophile, ça veut dire tout de suite, c'est-à-dire de façon même mécanique. Londres a toujours raison, les Anglais ont toujours raison. La banque de la famille était anglaise, voilà. Donc, vous voyez, écoutez, les choses sont... C'est la Westminster, d'ailleurs, qui nous a fait faire faillite après. Mais, en tout cas, c'était Londres. Donc, guerre d'Espagne, réfugiés. Tragédie de 39-40. Réfugiés, venant du Nord, hollandais, dans les jardins, on avait rangé des lits dans les garages. Époque extraordinairement perturbée, où j'entends parler espagnol... Ou hollandais, ou les réfugiés affluent. Et il faut se mettre dans l'idée que, à ce moment-là, les Allemands réquisitionnent tout le bas des maisons. On avait à domicile un officier autrichien qui, comme je dis, heureusement plutôt autrichien, c'est-à-dire plutôt modéré, je suppose, c'est-à-dire se poivrant plutôt au cognac le soir en écoutant du Schubert. Donc, c'est Radio Londres dans les greniers. Alors, pour un enfant qui a donc 5-6 ans, entendre sur fond de brouillage, voilà. Ici Londres, avec ses voix extraordinaires, c'est pour ça que la radio, les voix fascistes, les voix de l'époque, des orateurs, qui tenaient la radio.
Le maréchal Pétain avait rétiré aujourd'hui le jury Goncourt. Voilà, bon, toutes des voix invraisemblables qui ne se font, des voix froides, complètement mécaniques. Alors, sur fond de brouillage, ici Londres, les Français parlent au français. Et voici quelques messages personnels. Une hirondelle ne fait pas forcément le printemps. Je répète, une hirondelle ne fait pas forcément le printemps. Les carottes sont cuites, je répète, les carottes sont cuites, etc. etc. Ce qui frappe un enfant à ce moment-là, c'est le côté extrêmement bizarre de ces langues qui commencent à se mélanger, parce que les Allemands, quand même, parlaient fort, en bas, là, hein. Les Espagnols se cachaient plus ou moins. Les aviateurs anglais qui avaient été réceptionnés par une amie de la famille qui était anglaise, d'ailleurs dont le mari était mort à Dunkerque, étaient cachés dans les caves, donc il ne fallait pas faire de bruit, parce qu'il fallait après les exfiltrer vers l'Espagne. Et donc, étrange, ça donc très relatif. On vit en dehors de l'histoire habituelle, enfin, ça a explosé. Plus ces messages énigmatiques. Pourquoi les Français parlant aux Français s'expriment-ils par énigme ? L'évêque a toujours bonne mine. Le cardinal a bon appétit. J'aime les femmes en bleu. Pourquoi n'y a-t-il plus de croisades ? Rodrigue ne parle que l'espagnol. C'est le moment de vider son verre. Les débuts sont contradictoires. Je répète, les débuts sont contradictoires.
Avouez et ça, que, dans l'oreille d'un petit garçon qui entendait ça dans ce brouillage, voilà,
ça attirait beaucoup mon attention.
Mais pour des raisons poétiques, vous le trouviez que le texte était joli, était... Qu'est-ce qu'il
il y avait tout à la fois. Premièrement, je vous signale que c'est un des meilleurs poèmes surréalistes qui ait jamais été écrit et diffusé sur les ondes. Deuxièmement, on écoutait ça à Radio Londres dans les greniers, pendant que dans les caves, il fallait cacher des aviateurs anglais, et donc on chuchotait très bas l'anglais. On retient les sanglots longs, les violons de l'automne, blessent mon cœur d'une langueur monotone pour le débarquement, ça c'est Verlaine, mais enfin, ce que je viens de lire là me paraît beaucoup plus efficace que pour éveiller la curiosité de ce qui se passe dans la clandestinité. Une épopée de radio. Voici maintenant quelques messages personnels dus à Arthur Rimbaud. Il faut se concentrer pour comprendre ce qui a lieu avec Rimbaud, non pas sur ses poèmes de jeunesse, mais sur Illumination. Illumination, qui est de la prose, mais alors de la prose tellement concentrée qu'on n'a pas écrit mieux en français, sinon Pascal. Exemple. Tu en es encore à la tentation d'Antoine. Les bas du zèle écourté, les tics d'orgueil puéril, l'affaissement et l'effroi. Mais tu te mettras à ce travail. Toutes les possibilités harmoniques et architecturales s'émouvront autour de ton siège. Des êtres parfaits, imprévus, s'offriront à tes expériences. Dans tes environs affluera rêveusement la curiosité d'anciennes foules et de luxe oisif. Ta mémoire et tes sens ne seront que la nourriture de ton impulsion créatrice. Quant au monde, quand tu sortiras, que sera-t-il devenu ? En tout cas, rien des apparences actuelles. Voici un autre message personnel. Je suis un inventeur, bien autrement méritant que tous ceux qui m'ont précédé, un musicien même qui ait trouvé quelque chose comme la clé de l'amour. Au passage, Rimbaud insiste beaucoup sur le fait qu'il invente une nouvelle raison qui va entraîner un nouvel amour. Vous écoutez ce qu'il dit de lui-même, qu'il est un inventeur bien autrement méritant, parce qu'il a découvert quelque chose d'énorme, extraordinaire. Hein, un musicien qui a trouvé quelque chose comme la clé de l'amour. Il faudrait rester un certain temps pour savoir ce que veut dire exactement avec la musique, ce qu'est la clé de l'amour. Si vous avez dans l'oreille la phrase fameuse de Shakespeare « Music is the food of love », vous comprenez mieux ça en écoutant la grande musique de Purcell ou d'autres. C'est-à-dire que l'amour, la musique est la nourriture de l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la musique est-elle la nourriture de l'amour? Drôle de nourriture, bizarre, par l'oreille.
Ce sont des textes d'une grande complexité quand même.
Heureusement.
Ça les abîme quand on dit que c'est complexe, quand on dit qu'ils sont difficiles à lire. C'est pas comme ça qu'on devrait en parler. On devrait se laisser porter par leur musique, comme vous avez l'air de le faire. Moi, je me sens très prosaïque en vous disant ça, mais je le trouve difficile, ce texte.
Oui, je pense qu'une fois que c'est enregistré, on peut le réécouter. On peut le réécouter. Et puis, on peut le réécouter. C'est comme les messages personnels de 1944. Vous pouvez les réécouter. Et évidemment, vous savez que ça a une action directe sur des gens qui sont à l'écoute, qui ont l'oreille contre le poste, qui sont cernés par des espions allemands qui essayent de déchiffrer pour empêcher une action. C'est la guerre. Mais Rimbaud aussi, c'est la guerre. C'est une guerre. C'est-à-dire qu'on s'adresse à quelqu'un qui va entendre quelque chose qui correspond à l'intensité qu'il habite.
Une famille donc d'industriels aisés, une propriété dont vous perdrez, vous
en parlez. Enfin, aisés à l'époque, mais ils vont faire faillite très vite.
Et qui vont faire faillite très vite, voilà. Ce qui était quand même un choc dans votre vie, vous aviez déjà 20 ou 22 ans à l'époque.
Il y a eu plusieurs chocs dans ma vie, très, très, très intéressants, si on peut dire. D'abord, oui, cette faillite. Mais le fait que ces maisons, ce jardin un peu enchanté, c'est toutes les maisons, enfin, la façon dont ces gens habitaient là, tout cela a été rasé après la faillite, a été rasé. Et j'ai raconté ça dans un roman qui s'appelle « Portrait du joueur ». Et c'est maintenant un énorme supermarché. Alors je raconte dans ce roman comment j'essaye de retrouver au troisième étage, dans la lingerie, la chambre que je pouvais occuper, etc. Oui, bon. Je vais aller voir ce supermarché, celui qui a pris la place de nos maisons et du parc. Je le revois, maman et moi, juste avant le dernier déménagement, pièce vide, endormi sur des chaises longues, ultime regard sur les arbres, ultimes odeurs montant des massifs. C'est toi, oui, l'instant qu'on ne saura jamais dire et qui passe avec la rapidité de la flèche tout en restant à jamais immobile, fiché dans la gorge du temps. Sombre signe, éclatante cible inaccessible, c'est toi qui me cherches, c'est toi qui me vis. Je prends la voiture, je descends vers la Garonne, je traverse le pont de pierre, j'avance dans la ville comme un aveugle conduit. J'ai assez marché par ici, des heures et des heures. M'y voici le supermarché, Suma. On trouve tout chez Suma, tout et le reste. Caverne d'Ali Baba, entrepôt global, existence en raccourci, point focal des désirs, Suma. Domestica, nouvelle ère théologique, nourriture, vêtements, toilettes, entretien, jouets, meubles. Le grand immeuble en béton occupe tout l'espace, coup de poing obtus sous le soleil. J'entre, je me fais client, il y a déjà foule, étagères et chariots, comptoirs et caisses, néons, air climatisé, musique sirupeuse d'ambiance. Personne n'a encore vraiment décrit l'anonyme défilé final, celui de la misère satisfaite, inconsciente, autorégulée, consommée. Celui de l'espace affichant, complet. Terminus, tout le monde descend, tout le monde digère, Tout le monde, il est pareil, achevé, nul et non avenu, tube, appendice passant à la marchandise. Et tant mieux, et bonsoir. Chemisette, jupette, pantalon, ventre, queue patiente résignée, dévote presque, cellophane, comme autrefois à la communion, cœur des paquets. Voyons, à l'entrée là, en dessous des machines à calculer et des téléviseurs de contrôle, ce devait être le perron et un peu plus loin la porte intérieure vitrée. Plus loin encore, l'escalier de marbre, le couloir, la porte marron menant à la cave et la véranda juste ici au rayon de charcuterie. Les boissons, vin, alcool, jus de fruits, bière doivent se trouver à la verticale de la bibliothèque. La parfumerie, elle, surplombe les cuisines. Je monte par l'escalier roulant au premier étage. Voici sans doute ma chambre, la chambre verte, dans le fouillis des blousons, des vestons. Et celle d'Hélène et de l'or dans les dessous, soutien-gorge, culotte, chemise de nuit, polyester en tout genre. Celle des parents, en revanche, est dans le secteur pour enfants. Bateau, chemin de fer, avion, cabine de cosmonaute, camion, jeux électroniques. Deuxième étage, voilà, dans l'ex-mystère touffu du grenier, le maudit électroménager. Et puis les tables, fauteuils, chaises. Je m'approche d'une lucarne. Il y a des hangars, maintenant, là où brillait l'orgueilleux gazon. La masse grise de l'usine est géométriquement fermée par les HLM, tours compactes habitées à la place des toits obliques. Fumée lente des générations, corps cendre, je revois vite, en surimpression, la foudre tombée un soir sur le paratonnerre de la grande cheminée en briques, boule blanc-roux, éblouissante, visage dans les rideaux bleus, du salon. Deuxième traumatisme, parce qu'on est obligé, quand les maisons ont été détruites, c'est en train de se passer à l'heure actuelle, justement, du côté de la côte atlantique. Vous savez ce que c'est que les zones noires et que le chagrin épouvantable qu'ont certaines personnes de voir leur maison destinée à être détruite. Elles n'auraient pas dû être construites, d'ailleurs, là où elles ont été construites. C'est là où on voit, en effet, à quel point tout cela est condamnable sur le plan d'un profit illicite sur des gens pauvres. Bon. Alors, l'autre traumatisme, donc, pour moi, c'est les maisons de l'île de Ré. C'était là où je vais maintenant. C'était une sorte de hameau, on était là. Et alors, ces Allemands, eux, ils voulaient... Vous savez que les Allemands voulaient murer l'Atlantique. Hein, c'est-il pas fou, ça? Murer l'Atlantique. Ouais, murer un océan. Alors, il y a encore des fortifications à peu près partout. Et puis, on était dans la ligne de tir de leur canon, hein, au bord de l'eau. Donc, ça les gênait. Donc, ils ont tout rasé. Là, j'ai des souvenirs. J'ai l'âge de 3 ans, à peu près. Enfin, voilà, 3, 4 ans. Hein. Alors, l'embêtant avec ces destructions de maisons, ça me frappe toujours beaucoup.
Est-ce que je peux vous ajouter d'ailleurs que très récemment, enfin c'était les tempêtes de quoi, 99 je crois, 99. Dans l'île de Ré où vous allez toujours et qui vous est très cher, oui. Vous avez failli connaître à nouveau ce traumatisme.
En 99, toute la véranda a explosé.
Voilà, tout a explosé chez vous, mais vous avez revécu, enfin vous en parlez comme si tout d'un coup tout ressurgissait, oui. De la perte de vos maisons d'enfance.
Surtout récemment, mais bien sûr.
Ça sort et de même que vous êtes très, très touché par ce qui arrive aujourd'hui sur la côte.
Absolument, où la maison n'a pas été inondée, heureusement, mais à 50 mètres à gauche et à 50 mètres à droite, c'était le cas. Les digues ont explosé. Là. Vous avez vu ce qui est arrivé il n'y a pas si longtemps à Nice, etc. Donc la nature, elle a, comme je dis, des raisons probables d'être mécontente, la nature. Elle est très mécontente. Donc les maisons rasées, ça c'est très important parce que si on a un peu d'imagination, de mémoire un peu active, Dieu sait que ça, c'est quand même avec ça que je fais mes livres.
vous êtes obligé de reconstruire ces maisons en imagination. Et en même temps, c'est mieux. C'est mieux qu'il n'y ait pas de reste. Donc, l'ennuyeux, c'est qu'il faut quand même souvent revivre ça dans les rêves, des choses comme ça.
Prenez conscience que la vie de votre père et de votre oncle, donc, qui travaillaient dans cette usine familiale, ne peut pas être la vôtre. Je ne reviens pas sur les détails, mais vous le dites avec pas mal d'humour dans votre autobiographie à nouveau. Et puis, vivre là et de ça, comme eux, impossible, c'est décider, je ne ferai rien. Ouais. Et rien, bien sûr, c'est lire et écrire.
Oui, c'est ça. Mais à l'époque, c'est rien, parce que socialement, ça ne voulait rien dire. Donc, c'était vraiment...
Et toute votre vie, vous n'avez rien fait?
Au fond, je n'ai jamais travaillé. J'ai fait que ce qui me plaisait, c'est donc je suis assez content. Lire, écrire, c'est pas travailler. Je suis dans une maison d'édition, mais ça revient au même. Enfin, finalement, rien.
Et ça veut dire, en fait, rien, ça veut dire faire ce qu'on veut.
Plutôt.
C'est mieux, c'est mieux.
Rester
c'est
indépendant,
plus juste, non ?
Rester indépendant, libre, et faire vraiment ce qu'on veut. Autrement dit, c'est pas plus mal, parce que pour écrire, il faut presque rien. Rien dans les mains, rien dans les poches, comme disait Sartre. Bon, il n'y a pas besoin de permission particulière. Il n'y a pas besoin de travailler en équipe. Bien, même si je m'occupe de livres, de revues, etc. Vous êtes seul et à vous de jouer. Ça m'a toujours étonné d'ailleurs que ça puisse marcher d'une certaine façon, plus ou moins bien, ça dépend du moment. C'est donc un acte magique, contraire à ce que veut la société, de surveillance cyclopéenne, au travail, à la contrainte, à ce qui fait que la vie est en général extrêmement ennuyeuse, routinière, etc. Sauf dans les grandes périodes historiques, où on peut trouver de quoi s'enfiévrer. Bon, par exemple, la dernière en date, c'est 68. Mais à l'heure actuelle, franchement, donnez-moi une raison de justifier la vie que n'importe qui mène, sauf peut-être les milliardaires et encore... Misère de ces gens, n'est-ce pas ? Donc la misère est partout, en haut comme en bas. En haut spirituellement, en bas matériellement, mais ça revient finalement à une sorte de conglomérat de misère. La liberté n'est pas là, l'amusement non plus, elle n'est pas dans le spectacle de divertissement, elle n'est pas au cinéma, elle n'est pas à la télévision, elle n'est pas là.
Et est-ce que vous diriez que vous vous êtes bien amusé dans la vie ?
Je n'ai fait que ça, oui. Rien ne pourra faire, dit Casanova en exergue de ses... Enfin, vraiment, c'est une phrase fameuse de l'histoire de sa vie. Rien ne pourra faire que je ne me sois amusé. Là, c'est pas mal de dire ça, quand même.
C'est venu très tôt, votre envie d'écrire et de lire. Donc, c'était le départ pour Paris, ça passait par là, hein, quand on quitte une
ça
grande
passait,
ville.
Ça passait par le fait, oui, que... Mais écrire, c'était loin déjà, mais... Non, c'était autre chose, une façon de rompre. De me décaler sans arrêt, pas aller dans les cours, de sécher, de buser, voilà.
C'était bon élève ?
Je pouvais très vite passer pour passable, voilà. J'étais bon dans les matières qui me tombaient sous la main. C'est-à-dire bon en latin, j'étais bon en français, soi-disant, me semble. Mais le reste du temps, je n'écoutais pas vraiment, voilà. J'écoutais pas vraiment les cours de physique, de chimie. J'étais bon en algèbre, mais très mauvais en géométrie, si vous voulez qu'on fasse des trucs comme ça. Non, la famille, d'abord. Comment s'en sortir ? Un, difficile, parfois. L'école, oh là là, l'université, oh là là. La question est donc la suivante. Comment sortir des différents cercles qui risquent de vous arrêter dans votre chemin propre ? Alors, la famille, bien sûr, il faut savoir faire avec et s'en sortir. La plupart y restent toute leur vie. Il faut sortir. L'école, il faut s'en sortir. J'avais une tête qui faisait que j'étais souvent renvoyé. Parce que j'avais l'air, paraît-il, insolent, alors que je n'en avais pas du tout conscience. Donc, je me mettais toujours près de la porte et j'étais mis à la porte comme ça. Hein. J'ai des souvenirs admirables de cours, d'écoles désertes. Je regardais la pluie tomber, les toits de zinc. Quelle merveille, l'école, quand on s'en fait renvoyer. Après, vous êtes dans l'université. Alors, ça demande un certain don, parce que quand vous ne faites rien, il faut passer quand même. Après, il faut échapper à l'armée. Alors, ça devient encore une autre affaire. Cette fois-ci, plus dur, parce que l'époque en question où j'ai vécu ça, c'était vraiment très dramatique. Après, il faut échapper au travail ou à la contrainte financière, plus ou moins, donc trouver quand même de quoi vivre. Hein, parce que, voilà. Et puis après, il faut durer avec ce qu'on aime faire uniquement, c'est-à-dire ce que j'appelle rien, parce que pour la société, au fond, c'est rien. Parce que je disais à ma famille, je serai écrivain. Oh, oui, c'est ça, je suis encore écrivain. Voilà, donc on est aussi bien mu par son propre désir que par tout ce qui peut vous empêcher de le réaliser. Au fond, tout ce qui veut vous empêcher vous sert. Les adversaires vous servent. L'animosité, l'agressivité qu'on peut susciter, et que je m'arrange, au fond, pour la susciter parce que ça me sert. D'abord, ça m'alerte, donc je fais des progrès comme si. Et d'autre part, il faut faire travailler l'adversaire. Il travaille pour vous. Alors, mais il faut tenir bon dans son désir profond. Voilà, c'est tout. Maintenant, c'est la guerre d'usure. J'ai deux objets fétiches. Une écorce d'orange, que je vais respirer en ouvrant la lucarne des chiottes, et des lames de rasoir, que j'ai dissimulées dans un ourlet de mon pyjama. J'ai bien l'intention de m'en servir si ça dure. En même temps, je cesse de parler et garde le regard obstinément fixé sur le sol. Très bonne connaissance des sols. Ce comportement finit par intriguer. Donc, psychiatre. Avant de poursuivre, un tuyau à qui voudra s'en servir, un de ces trucs qu'on se refile à mi-voix dans les couloirs, pour perturber un électroencéphalogramme, serrer et faire grincer légèrement les dents. Il paraît que ça marche. Un type me dit ça dans la banlieue de Paris pendant que je subis des expériences tests dans une cave au sujet de mon asthme. Tenez, respirez ça. Odeur d'amandes amères, violente crise immédiate, étouffement, convulsion et retour titubant à l'air libre pour contempler Paris de haut. Grotesque Rastignac, transporté via le Val-de-Grâce en camionnette grillagée, comique. Psychiatre maintenant. C'est un capitaine plutôt brave con. Il m'interroge et je me tais. 3 fois, 4 fois, 5 fois. Il me demande alors de dessiner un homme et une femme nus. Oh, le gros malin, c'est trop beau. Adam et Ève, comme dans Cranach, sans feuilles de vigne. Je m'y mets avec application. Je dessine très mal, mais j'y parviens. Un homme et une femme parfaitement reconnaissables, puisque je m'attarde longuement sur les sexes et les poils, bien différenciés, bien visibles, seulement voilà, ils n'ont pas de bras. Le type me regarde incrédule, mais ses yeux brillent. Il tient son cas. Il ne leur manque rien ? Je secoue négativement la tête. « Regarde bien, tu n'as rien oublié. Ce tutoiement risque de me faire réagir, mais du calme. Cette absence de bras est grosse comme un immeuble, mais plus c'est gros, plus ça marche. » l'armée, ça m'a pris quand même du temps, c'est-à-dire c'était l'époque de la guerre d'Algérie. Pour y échapper, ça m'a fait 3 mois d'hôpitaux militaires, une grève de la faim pour finir qui m'a fait perdre 25 kilos. J'étais obligé de simuler aussi la maladie mentale, ce qui est un peu compliqué parce qu'on peut s'y laisser prendre et lorsqu'on simule une dépression profonde, c'est-à-dire on ne répond plus, ça risque de vous prendre un peu trop. Mais enfin, je suis réformé numéro 2 sans pension pour terrain schizoïde aigu, ce qui me paraît un excellent diagnostic, mais je n'ai dû ma libération qu'André Malraux, que j'ai remercié, etc., et qui m'a répondu par une petite carte de deuil. C'est moi, monsieur, qui vous remercie d'avoir pu au moins une fois rendre l'univers moins bête. Bon, vous voyez, c'était le grand style. On ne parle pas assez. Le premier placard, Vichy, etc., bon, quand même, vous en avez désormais quelques connaissances, et il a fallu longtemps. La guerre d'Algérie, c'est tout à fait autre chose. On ne devait pas dire la guerre. C'était le maintien de l'ordre. Vous envoyez là-bas 500 000 soldats du contingent, dont beaucoup ont été soit tués, soit blessés. Alors, vous n'avez qu'à lire l'extraordinaire livre de Pierre Guyotat qui s'appelle « Tombeau pour 500 000 soldats », etc., qui a été alors lui hyper traumatisé. Voilà. Il a fait de la prison là-bas, etc. Enfin bon, et d'autres choses. La torture, etc. Enfin, quand même.
Sur les soldats américains.
Par exemple, le parachutiste Le Pen, sur le boulevard Saint-Michel, qui rentrait comme ça, comme dans le jeu républicain-démocratique, comme s'il ne s'était rien passé. Je le revois très bien me prenant, comme ça je manifestais. Me prenant par le col de la chemise, me traitant de petit con, etc. Voilà. Attention, on n'avait pas le droit de parler du fait que c'était une guerre. Et donc, c'est le gouvernement Jospin, je crois, qui a décidé que, ben oui, c'était une guerre, voilà. Ah, c'est horrible, de part et d'autre. D'ailleurs, ça fait partie des placards dans les cadavres. Alors, vous avez, c'est évidemment Vichy, c'est évidemment l'indulgence invraisemblable dont a bénéficié un grand tueur quand même de son temps qui est Monsieur Joseph Staline, hein. Et puis vous avez évidemment la guerre d'Algérie. Puis après, alors vous avez l'argent qui arrive et qui noie tout ça. Mais maintenant, vous n'entendez plus parler que d'argent. Et à quoi peut-on assister ? C'est-à-dire à une ignorance de plus en plus rapide, accélérée de l'histoire. Je vois les écrivains et l'histoire. Je vois qu'ils sont tout à fait à côté de la plaque, sauf un comme Modiano, mais Modiano qui fait des livres excellents, d'ailleurs le dernier est très très beau, mais regardez bien son horloge, c'est toujours, enfin il arrive au début des années 1960, mais pas, voilà. Or nous sommes sauf erreur en 2010, pas. Donc il est dans une certaine tranche, enfin pour lui extrêmement important, puis c'est sa vie, avec des problèmes de roman familial dans l'histoire. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de prendre une goutte de misérable, c'est moi, dans l'histoire, mais d'essayer de me sans cesse de situer cette gouttelette dans l'histoire, dans la grande histoire. Me demander ce que je fais là, pourquoi je suis français, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que ça veut dire de l'être, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'identité nationale complètement salopée, et pourquoi les Français ne veulent plus se rappeler qu'ils ont été appelés la grande nation, etc. Donc ne rien faire. Alors ne rien faire ouvre à quelque chose d'autre qui est le fait de vouloir conserver ce désir de ne rien faire. Et ce désir de ne rien faire, dans mon cas, ça a été le fait d'écrire. Parce que vous savez, un stylo, une page blanche, c'est pas vraiment du travail, c'est du jeu avant tout. Donc on continue à jouer comme on jouait quand on était enfant.
Quitter son milieu, c'était important pour vous, le sentiment d'être un peu en marge par rapport à ceux que vous aviez vécu, un milieu très bourgeois, très inscrit dans l'histoire bordelaise, y compris par votre mode de vie.
Oui, j'ai conçu ça comme...
Vous l'aimiez
pourtant ? Il ne faut pas céder sur son désir. Voilà, c'est le vieux Lacan qui disait ça. Comprenez, il ne faut pas céder sur son désir. Les gens qui cèdent sur leur désir, eh bien, voilà, ils sont cédés sur leur désir. Eh bien, moi, sans être obsédé par mon désir, je n'ai pas cédé sur mon désir.
À
Un été avec Philippe Solers. Une émission proposée par Dominique Rousset et réalisée par Isabelle Huel. Prise de son, Frédéric Quéroux. Mixage, Olivier Dupré.
Yes, give me a kiss to fill a dream on. My imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this.
Nous nous retrouvons demain dimanche à la même heure, un été avec Philippe Solers. Il ne trouve de goût qu'à ce qui lui fait du bien.
Give me a kiss before you leave me. My imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part. Kiss the bill and dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be you. Weaving romances, making believe they're true. Babe, give me your lips for just a moment. My imagination will make that moment live. Give me what you alone can give. Kiss the bill, the dream on. When I'm alone with my fancies, yes, I'll be with you. Oh, weaving romances, yet that I'm making believe they're true. Babe, lend me your chops for just a moment. And my imagination will make that moment live. Yes, give me what you alone can give. I kiss the bill I dream of.